Au terme d'un interminable suspense, le gouvernement a donc tranché, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Alors, quelle que soit l'appréciation qu'on porte sur cette décision, c'est un grand, c'est un incontestable succès pour les opposants, notamment les opposants sur le terrain, et notamment ceux qu'on appelle les zadistes. Alors, comment ont-ils remporté ce succès? Et d'abord, au-delà des représentations caricaturales médiatiques, qui sont les zadistes? Quelle est la forme de leur combat? Quel est le sens de cette victoire qu'ils viennent de remporter? C'est les questions posées aujourd'hui à nos invités, Hélène.
Hervé Kem, vous êtes rédacteur en chef de Reporter, donc le quotidien en ligne de l'écologie, et vous avez écrit un livre sur la bataille écologique autour de ce projet d'aéroport qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Stéphane Carco, vous êtes délégué général de l'association Agir pour l'environnement, qui était opposée au projet d'aéroport. Véronique Escolano, vous êtes journaliste pour Ouest-France à Nantes. Alors vous n'êtes pas la journaliste attitrée sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais vous avez travaillé sur la ZAD et notamment dans les dernières semaines. Et par visioconférence en direct de Notre-Dame-des-Landes, Camille, donc c'est le prénom que, par lequel les habitantes et habitants de la ZAD se font appeler. Donc Camille, vous habitez sur la ZAD depuis 2 ans.
Mais alors, tout de suite, une question, Camille, si vous permettez. Donc, vous voulez qu'on vous appelle encore Camille, qui, comme Hélène le disait, est le prénom générique des hommes et des femmes qui habitent sur place. Mais la nouvelle situation ne vous permet pas de retrouver votre vraie identité et qu'on vous appelle, par exemple, par votre vrai nom et prénom?
Ce n'est pas qu'on cache notre vraie identité, c'est qu'on a envie de continuer à montrer le fait que c'est une lutte qui se mène ensemble et que donc on n'est pas très intéressé par la personnalisation et l'individualisation des gens qui parlent. Donc il n'y a pas d'interdiction sur la ZAD de parler en son nom propre. C'est juste que là, moi, je fais partie du groupe presse et qu'on a envie de continuer à parler, à essayer de porter une parole commune. C'est ça aussi le sens de Camille.
D'accord. Mais donc sur la ZAD, il y aura dans l'avenir, comme il y a eu d'ailleurs dans les derniers mois, des Camilles et d'autres qui donneront leur vraie identité aux gens qui viendront les voir, par exemple les journalistes.
C'est déjà le cas, oui.
C'est déjà le cas, voilà. Alors, on va revenir sur toutes les images médiatiques qui ont été données de ce combat de Notre-Dame-des-Landes, mais je crois qu'il faut qu'on commence par l'image des instants qui ont suivi l'annonce d'Édouard Philippe.
Oui, alors après l'annonce de l'abandon du projet, on a entendu évidemment beaucoup de réactions. Nous, on a choisi là de regarder les opposants à l'abandon du projet, donc les personnes qui souhaitaient l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et donc qui analysent cette décision comme un manque d'autorité de l'État.
Ce soir, c'est la victoire des zadistes. Quand j'évoquais indignation, c'est tout simplement le Premier ministre et le Président de la République qui bafouent l'état de droit, la démocratie.
C'est malheureusement une blessure pour la démocratie, aussi pour l'état de droit. Mais voilà, le manque de courage aujourd'hui est souvent courant et on en a une nouvelle manifestation.
Par cette décision, par son refus de transférer l'aéroport, par l'absence d'évacuation de la ZAD aussi, le gouvernement cède à la facilité, cède au chantage de la violence.
L'État capitule devant des hordes de voyous qui ont brûlé des voitures de gendarmerie, caillassé les forces de l'ordre, qui sont là en train d'exulter, de chanter, de danser en ce moment sur les décombres de l'autorité de l'État.
Au vu des décisions de justice depuis un demi-siècle, au vu du référendum, on peut se dire que l'autorité et la continuité de l'État en ont pris aujourd'hui un vieux coup.
Voilà, il y en a un que la décision d'abandonner le projet met particulièrement en colère, c'est l'éditorialiste conservateur Éric Brunet. Le 5 janvier déjà, donc avant la décision, il en parlait sur RMC.
Juste une chose, en Chine, en ce moment, on est en train de refaire des quartiers de Pékin. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'État, enfin la ville de Pékin, déplace des populations, 3 millions de Chinois. Mmh. On refait le quartier et dans quelques années, ils reviendront. Personne ne remet en cause en Chine l'autorité de la chose.
Ah bah oui, ça
vous
c'est
imaginez
sûr.
Que
non,
chez,
nous,
ne pas en chez Chine. Nous, quelques associations et quelques punks à chiens sont parvenus à faire plier l'État. Eh bien, c'est agaçant et je comprends aujourd'hui des associations comme Les Ailes pour l'Ouest qui se battent depuis des décennies pour ce nouvel aéroport et qui, à mon avis, trouvent que la potion est un peu amère.
Bon, alors Hervé Kempf, je ne vais pas vous demander si les zadistes sont des punks à chiens, mais dans cette lutte que vous suivez depuis des années, d'abord pour Le Monde, ensuite pour Reporter, comment vous avez ressenti la couverture des médias mainstream et notamment des médias audiovisuels sur cette lutte? Est-ce qu'elle a été pendant toutes ces années à l'image de ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire globalement hostile, ou est-ce que ça a été plus compliqué que ça?
Audiovisuel, je ne sais pas, je ne regarde pas la télévision, pour ne pas dire elle est en panne depuis très longtemps, donc j'ai beau faire, j'arrive pas à retrouver un réparateur, il me manque un boulon, donc l'indifférence, en fait l'indifférence le plus long, un suivi très épisodique, qui en fait considérait la question assez anecdotique, l'attente, le réveil de l'intérêt quand des ombres de matraques ou de lanceurs de grenades lacrymogènes ou de flashballs se dessinaient. Et dans la dernière période, c'est-à-dire depuis 3 semaines, une espèce de je vais essayer d'employer des mots très mesurés, de faillite, une sorte de faillite du journalisme, c'est-à-dire la répercussion, le relais sans aucun souci de vérification des sources et de vérification sur le terrain, de sources policières ou du source de ministère de l'Intérieur, ça je ne sais pas très bien. Et donc entre Valeurs Actuelles, Le Figaro, Le Journal du Dimanche, c'était un festival de d'informations non vérifiées, avec un parti pris très autoritaire, très désireux d'un affrontement. Et je ne sais pas comment l'expliquer, s'il cherchait du spectaculaire, parce qu'évidemment, c'est toujours très intéressant de voir des gens casqués d'un côté face à des personnes en cagoule éventuelles de l'autre, ou si c'était l'expression d'une vision idéologique très inspirée par le désir de l'ordre. De ces médias qui, une fois de plus, mais ce n'est pas sur Arrêt sur Image que je vais le rappeler, évidemment, appartiennent pour la très grande majorité d'entre eux à des puissances financières, pour faire simple.
Alors, on va revenir effectivement sur cette image et ce traitement médiatique des tout derniers jours, mais je voudrais poser la même question à Camille. Tout au long de cette occupation et de cette lutte, est-ce que vous avez suivi de près la manière dont les médias, la télé, les journaux ou les médias en ligne transcrivaient votre action et votre combat? Est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous de suivre ça?
Disons que oui, je pense que ça a été important parce que on n'est pas dupes. On sait bien que les pouvoirs utilisent le storytelling pour pouvoir faire avancer leurs idées. Donc bien entendu, ça nous intéressait et qu'on voit bien. Enfin, il y a eu quand même après 2012 une assez grande différence dans la couverture médiatique, qui est passée d'un stade de méfiance et d'hostilité très très fort à une phase où beaucoup de journalistes en fait ont découvert la lutte sur le terrain. Il y en a beaucoup qui ont développé un vrai intérêt, qui ont été touchés par ce qui se passe ici, et qu'on a découvert que beaucoup de journalistes étaient sincèrement intéressés. Voilà, ça n'est pas une pensée c'est pas sur Arrêt sur Image qu'on va dire ça, mais en même temps je le dis quand même, c'est que voilà, les médias c'est pas un truc monolithique non plus, et que ça nous on en est conscient. Donc voilà, il y a un moment donné où...
Pourquoi vous faites référence à 2012?
Il y a eu l'opération César, et qu'en fait il y a eu énormément de journalistes qui sont venus parce que justement il y a aussi cet attrait, voire cette soif du spectacle. C'est quelque chose que nous on a vécu sur place ces dernières semaines, ce que disait Hervé, cet attrait, cette fascination pour la possibilité d'un spectacle sensationnel de bataille. Très clairement, il y avait une soif pour ça. C'était à se demander si au moment de l'annonce et du discours d'Edouard Philippe, il n'y avait pas des journalistes qui étaient déçus du manque de batailles rangées à venir. Et en même temps, on a aussi eu des journalistes qui personnellement sont venus nous dire que eux, cette lutte et de suivre ce qui se passe ici, ça les avait touchés et qu'ils étaient contents. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas monolithique, mais il y a quand même eu vraiment cette soif et l'excitation du spectacle à venir. Et que ce qu'on voit bien dans les prises de parole que vous avez montrées, c'est la construction de cette figure du mouvement comme étant les zadistes, les voyous, les punks à chiens, alors qu'en fait, on sait bien que ce à quoi le gouvernement faisait face, c'était un grand mouvement populaire très diversifié et qui en même temps s'était donné les moyens de faire front commun. Et c'est bien ça.
Quand on a passé l'extrait punk à chien, attendez, vous n'avez rien vu, hein, on va passer d'autres images, c'est encore pire. L'opération César, juste en un mot dont vous avez parlé, c'est une opération manquée d'évacuation de la ZAD qui a eu lieu en 2012. Ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Est-ce que vous avez ressenti aussi sur place cette espèce de virage en 2012?
Non, absolument. Enfin, la ZAD s'est aussi ouverte depuis. Il y avait des conditions très difficiles en 2012.
C'est-à-dire qu'il y a un peu des deux côtés quand même. C'est-à-dire qu'il y a plus de journalistes qui sont venus, mais d'un autre côté, la ZAD, c'est ce que vous êtes en train de dire, a été plus accueillante aux journalistes.
Depuis ces derniers temps, puisqu'il y a aussi un désir de communication, de montrer qu'effectivement, ce n'est pas que cette image qui a été véhiculée. Là, je me surge un peu sur la faillite du journalisme. Et je trouve ça très bien, Camille est assez honnête, sur le fait de voir que ce n'est pas monolithique. Parce qu'effectivement, je pense, là, je vais parler de ma boutique, Ouest-France, il me semble, même si c'est compliqué d'être journaliste, hein, quand on se retrouve sur la ZAD, mais des collègues qui ont fait un travail extrêmement juste, je crois qu'il y a eu un travail remarquable, qui donne la parole à tout le monde, un vrai travail là aussi collectif, les opposants, les zadistes, les anti, les pour, enfin, etc. Je reviens là-dessus quand même, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, on y travaille comme Valeurs Actuelles, etc. C'est pas
voilà. Certains journalistes.
Et il y a eu un suivi. D'accord. Je reprends aussi moi un suivi aussi. Je me souviens de ce superbe papier d'un collègue François Chrétien sur les bébés de la ZAD, etc. Donc depuis, les bébés de la ZAD, un suivi
de la vie. La ZAD.
Absolument, voilà. Et donc là, je pense que c'est un papier qui avait marqué aussi.
Il y a eu des naissances dans la ZAD.
Il y a eu des naissances. Donc c'est
une dizaine d'enfants.
Donc cette génération qui grandit et qui montre aussi qu'il y a un ancrage qui voulait se faire.
Voilà, donc effectivement, ça s'est un peu ouvert des deux côtés. Alors, sur cette image de zadistes violents dont vous parliez, qui a été colportée notamment, effectivement, ces dernières semaines, on a un petit échantillon aussi.
Oui, alors ça fait longtemps hein, qu'on présente parfois les zadistes comme étant violentes, mais ces dernières semaines, on a vu, comme vous en parliez, on en a parlé aussi sur image, ce relais de la communication de la gendarmerie. Et donc, sur les chaînes d'information en continu et dans les journaux télévisés, on a vu des sujets qui présentaient les habitantes les habitants de la ZAD comme étant armés et dangereux.
Parmi les 400 zadistes qui sont aujourd'hui sur le site, certains n'aspirent qu'à une chose, aller à la confrontation.
Ils sont coutumiers de l'emploi de projectiles divers, de cocktails Molotov. L'expérience a montré qu'ils allaient au contact, ils étaient capables d'accrocher les gendarmes.
On sait qu'il y a des pièges, notamment style avec des pieux qui peuvent être enfoncés, des pièges renards pour briser les jambes. Voilà, on sait qu'il y a des pièges qui sont répertoriés, tout le monde le sait.
On sait qu'effectivement, il y a des pièges qui ont été mis en place par les zadistes, des systèmes à déclenchement à distance, d'explosifs, etc.
Il y a un Notre-Dame-des-Landes qui est beaucoup moins sympathique, avec des militants venus de partout, de l'étranger parfois, qu'on appelle les blocs, là, donc ce sont des militants plutôt violents, issus de mouvances extrémistes.
Il y a un noyau dur, on nous dit, de 100-150 personnes qui sont des guerriers, des soldats.
Comme sur un théâtre de guerre, ils ont miné le terrain de piège, de chausse-trappe pour empêcher l'intervention des forces de l'ordre. Des miradors érigés pour guetter l'arrivée des gendarmes et sonner l'alerte. Et puis tout un tronçon de la départementale 281 en plein cœur de la ZAD qui a été coupé à la circulation.
Alors, Camille, aviez-vous mis en place des pièges, notamment explosifs, à déclenchement à distance, comme c'est dit sur TF1 ?
C'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Quand on voit quand même, pour rappeler hein, le niveau de propagande, les fameux pieux plantés qui seraient des airs très dangereux, c'est le talus des bâtons. Où le 8 février 2016, il y a 40 000 personnes qui sont venues planter des bâtons en faisant le serment de venir les chercher si jamais il y avait tentative d'expulsion. Donc ça a été fait lors d'une manifestation très populaire. Les bâtons, ils sont là. Le mirador qui est fait pour pour guetter les forces de l'ordre. C'est un phare qui a été construit à partir d'un pylône électrique, et n'importe qui est venu sur la ZAD et monté au phare se rend compte que en fait on serait capable de prévenir si les gens, si les policiers, ils étaient en bas, parce que voilà, c'est une zone boisée, on voit pas très loin. Enfin, il y a vraiment une espèce de fantasme incroyable. Et en fait, on voit bien à quoi ça sert. C'est que c'est toujours la construction de la figure de l'étranger, du violent, cette figure complètement anxiogène qui ne vise qu'à diviser le mouvement. À chaque fois qu'il y a un mouvement social populaire, la technique est toujours la même, c'est essayer de diviser le mouvement avec les gentils, les méchants, et les méchants sont toujours d'ultra-violents, dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, qui sont le noyau dur d'on ne sait quoi, hein, c'est jamais... alors qu'en fait, ce qu'il y a ici, c'est un mouvement fort qui est ancré ici, et qui n'a jamais caché sa détermination pour pouvoir continuer à prendre soin de ce bocage. Donc effectivement, il y a un engagement très clair de tout le mouvement de développer une diversité de tactiques si jamais il y avait des tentatives d'expulsion. Mais cette division entre les 150 fous ultra-violents tapis dans la boue à essayer de souder des lames de rasoir sur les boules de pétanque, c'est juste le fantasme de gens qui ont besoin de venir ce qui se passe.
Véronique Escolano, est-ce que vos reportages dans la ZAD vous ont permis de vérifier ou d'infirmer tous ces fantasmes, effectivement?
C'est du fantasme, effectivement. Alors, ce qui est même très drôle, c'est qu'avant de... Quand on dit qu'on part faire un reportage dans la ZAD, on a l'impression qu'on part à la guerre. Voilà. Donc il faudrait presque partir avec le casque. Il n'y a rien, il faut juste partir avec des bottes. Moi, c'est ce que je dis, c'est juste des bottes, c'est tout. Éviter d'avoir un énorme appareil photo, mais voilà, prendre des gants, d'une certaine façon, avec les gens, parce que je pense que si... Oui, oui, mais dans le dialogue, parce que, voilà, il y avait cette affiche à un moment, on n'est pas un zoo non plus, il y a des gens qui vivent, donc on va pas, ne nous donnez pas, il y avait ce slogan, là, avec les cacahuètes, si vous voulez regarder les images, allez sur Internet, donc il y a un respect, il y a des règles auxquelles il faut, comme quand on va dans un camp où il y a des Roms, comme quand on va au lendemain d'un fait divers sordide, dans un village, etc. Donc là, je pense que... Et d'y aller, effectivement, c'est ce fantasme, c'est extrêmement drôle, enfin de autour de soi,
mais en même temps, comment ça se passait quand vous alliez en reportage sur place? Est-ce que vous étiez libre de vous déplacer comme vous le vouliez, seul, en allant où vous le souhaitiez, ou est-ce que vous étiez toujours accompagné par...
On se fait guider. S'annonce, mais je...
Guider,
pas guider, on sait, voilà, tel endroit, j'irai bien là. Ok, alors il peut y avoir tel contact, on vous donne un contact, on peut se promener seul. Effectivement, il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller, tout simplement. C'est vrai que je vais être honnête, hein, c'est vrai que sur le service presse, bon, là, c'est peut-être pas le bon moment d'aller à ce moment-là, je pense. Les gens qui s'occupent un peu de la com, voilà, il y a des moments.
Attendez, je comprends pas. Quand vous dites qu'il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller, vous faites allusion à quoi?
Camille, il faudrait que je le demande. Mais des endroits, bon, la Wardine est un peu réputé pour...
Pardon,
là, faut pas aller...
Attendez, j'ai pas compris.
Un des lieux dits.
Oui.
Est-ce que je...
Alors, non, mais attendez. D'abord, vous pouvez parler librement sans demander l'autorisation Hervé Kempf.
Est-ce que c'était un ressenti
pour le mode, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, avant de demander à Hervé Kempf s'il en pense, je voudrais que vous me décriviez cet endroit où on peut pas aller, c'est quoi?
Justement, je vais pas mentir, j'ai voulu y aller, puis j'ai renoncé. Bon, voilà, mais ce jour-là, il n'y avait pas la personne.
Pourquoi souhaitiez-vous aller dans cet endroit précis?
Parce que je voulais voir, justement, comment, si j'étais très malvenue ou pas.
Qu'est-ce qu'on vous avait dit sur cet endroit?
Mais comme journaliste, bon, il y a des endroits où...
Si vous souhaitiez y aller, j'imagine que c'est parce qu'on vous l'avait décrit d'une certaine façon. Comment on vous l'avait décrit?
Il est bien, peut-être, des fois, d'aller à deux. On me l'avait décrit, même des gens de l'intérieur. Hein. Bon, c'est pas le...
Alors, moi, j'avoue que je sais absolument pas de quoi on parle, Hervé.
Écoute, là, donc, il y a un certain nombre de lieux de vie qui vont s'appeler la Rolandière, les Fosses Noires, le Rouge et le Noir, la Wardine, le Maquis, etc. Wardine. Donc, ce sont des lieux où les gens vivent. La Wardine, moi, j'y ai jamais été non plus, et c'est notamment un lieu où il y a beaucoup de réunions, et puis il y a des gens qui y vivent, qui sont peut-être... Mais là, Isa, pardon...
Camille.
Voilà, d'autres personnes nous le diront éventuellement. Et puis effectivement, si les gens à un moment donné n'ont pas forcément envie que l'on vienne, bah on ne va pas chez eux. Parce que...
J'arrive pas à comprendre les raisons de ces restrictions verbales. Qu'est-ce qui court sur cet endroit qui s'appelle la Wardine ?
Écoute, il n'y a rien, il y a simplement des gens dedans qui... peut-être Camille va nous le dire aussi. Tu ne débarques pas chez les gens sans leur demander. Alors, s'ils ne veulent pas te recevoir pour des raisons qui leur appartiennent, tu ne vas pas chez eux.
Camille, pourquoi on ne peut pas aller à la Wardine ? Ou on ne pouvait pas y aller ?
Mais en fait, je pense que c'est vraiment... Il faut quand même mettre peut-être les cinq dernières minutes de la discussion en lien avec la dernière minute de discussion. C'est que quand on voit la couverture médiatique qu'il y a eu à certains moments ou dans certains médias, il y a quand même une hostilité qui a été développée par certains médias ou par une certaine couverture médiatique où à un moment donné, le fait qu'il y ait des gens qui se disent « en fait, moi, j'ai pas envie de prendre le risque de nourrir ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont fait brûler les doigts à accorder des entretiens avec des journalistes et voir leurs paroles complètement perverties, complètement transformées. Voilà, ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Donc, je pense que c'est important quand même de faire le lien quand il y a une hostilité pareille, le fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de parler à des journalistes. Moi, je trouve pas que ce soit quelque chose d'aussi incroyable et que, par exemple, la Wardine, c'est un lieu où, effectivement, il y a beaucoup de réunions qui ne veulent pas être publiques et que c'est un lieu où les gens n'ont pas envie d'être interviewés, n'ont pas envie d'être photographiés. Et donc, voilà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de menace. Enfin, le fait que Hervé et sa collègue, excusez-moi, j'ai oublié votre nom.
Véronique
Voilà, que Véronique dise, en fait, quand on nous dit que de ne pas aller à la Wardine, on n'y va pas, c'est juste un respect. Et voilà, il n'y a pas de risque incroyable. C'est juste que, voilà, à la Wardine, ils ont fait le choix d'être un lieu où il n'y a pas de journalistes qui se promènent. Parce qu'il y a aussi, par exemple, c'est notamment ces dernières semaines, c'est une quinzaine de demandes par jour, c'est au moins 3 ou 4 équipes de télévision par jour qui sont sur la zone. Et nous, on continue à vivre, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui a été la force de cette lutte, ça a été de continuer à construire, à produire, à cultiver, et il faut continuer à pouvoir vivre. Et qu'en fait, il y a aussi des gens qui ont envie de pouvoir mener à bien leurs activités sans être interrompus tous les quarts d'heure pour pouvoir donner des entretiens. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui partent du principe que nous avons une obligation, une responsabilité à répondre à tous les journalistes, à toutes les demandes, et que les gens qui n'ont pas envie de répondre aux journalistes, c'est parce qu'ils ont nécessairement quelque chose à cacher. Et que ça, moi, je trouve que c'est une construction qui nourrit cette fable du zadiste qui a des choses à cacher, alors qu'en fait, non, il y a juste des gens qui n'ont pas envie de parler aux journalistes. Mais il me semble que Hervé et Véronique peuvent peut-être partager leur expérience. À mon avis, il n'y a pas qu'à Notre-Dame-des-Landes qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de répondre aux questions des journalistes.
Et est-ce que vous, de votre côté, alors en tant que responsable ou membre du pôle communication de la zone, vous avez essayé de discuter avec ces gens de la Wardine et de leur expliquer que peut-être cette attitude de rejet des visites de médias pouvait être de nature à entretenir les fantasmes sur la violence, les engins explosifs, etc. Et que, voilà, il y avait certains journalistes avec lesquels on pouvait discuter, certains journalistes avec lesquels qu'on pouvait éventuellement recevoir. Vous avez essayé de leur dire ça ? Ça a été un sujet de débat ou de discussion entre vous ?
Alors, le fait d'avoir une stratégie de communication et de répondre aux questions des journalistes, ça, c'est une discussion qui a lieu souvent dans le mouvement, en règle générale, pas uniquement sur la ZAD, et de discuter des avantages et des inconvénients d'avoir une stratégie médiatique et de répondre aux questions de certains journalistes. Ça, c'est quelque chose, c'est une discussion qu'on a et c'est quelque chose qu'on fait. Enfin, quand on voit le nombre de reportages qui ont été faits sur la ZAD, il ne peut pas être dit que c'est une zone qui refuse les liens avec les journalistes.
Ce serait absurde. On va passer aussi un certain nombre d'extraits, oui.
Mais que, par contre, non, on ne va pas essayer d'aller convaincre les gens qui n'ont pas envie de parler aux journalistes ou qui n'ont pas envie d'ouvrir leur lieu de le faire. Je ne vois pas pourquoi les gens qui n'ont pas envie de recevoir des journalistes devraient de le faire au nom de quoi exactement ?
Chacun décide.
Juste un petit point technique, mais c'est exactement comme le disait Véronique. Moi, je ne vais pas débarquer chez EDF. Par exemple, si on fait des sujets sur le nucléaire, je ne vais pas aller chez EDF. Ouvrez-moi la porte, parlez-moi. Si on parle de... Ben, tu vois, dans tous les domaines, un journaliste, une technique journalistique, on demande aux gens, on les avertit qu'on va venir. Si on ne les connaît pas bien, on trouve quelqu'un. Est-ce que tu peux me présenter? Est-ce que je peux appeler telle personne de ta part? Et toutes les enquêtes, tous les reportages se font, même presque les plus banales. Et c'est exactement ce qui vient d'être dit. Et moi, je trouve que c'est journalistiquement... On ne débarque pas chez les gens comme ça, sauf s'il y a vraiment une actu qui s'impose. Et là, la règle change un peu, mais... On demande aux gens, est-ce que je peux venir chez vous? Est-ce que je peux vous parler?
Sur toute cette première partie de la discussion, vous êtes rendu vous-même dans la ZAD?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, bon, voilà, entretenir ce fantasme de zone militarisée avec des zadistes violents, le simple fait de l'évoquer continue à entretenir ça. Donc, moi, finalement, refuser ce débat. Et le temps va nous permettre de mettre à distance les propos juste surréalistes d'ultralibéraux qui vont nous dire que finalement le maoïsme et Pol Pot, c'était finalement pas mal. C'est Brunet qui, en gros, estime qu'on peut déplacer 3 millions de personnes pour des grands projets inutiles. Quand on va retomber tranquillement et qu'on va regarder ça avec un jour, un mois, un an de distance, on se dira « mais c'était juste hallucinant ce qui a pu être dit sur la ZAD ». Voilà, la société du spectacle ne nous somme pas d'ouvrir notre porte et de dire « on accepte les journalistes, par moment, on n'a juste pas envie, on se méfie ». Moi, je suis représentant d'une association, il m'arrive parfois de dire « non, ce n'est pas le bon moment, je suis en train de discuter, je n'ai pas envie de répondre à des interviews ». Voilà, le simple fait de dire « on a un jardin secret », on n'a rien à cacher, mais on n'est pas obligé de se soumettre à des demandes de journalistes, c'est pas parce qu'on est en train de cacher des armes de guerre.
Alors, sur ces stratégies de communication, c'est parfaitement clair. Maintenant, sur le débat sur la violence, je voudrais qu'on l'approfondisse à travers un exemple historique, puisque depuis la victoire de la ZAD, l'exemple qui revient le plus souvent d'événements comparables, de victoires comparables, c'est le Larzac. Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'affaire du Larzac pour les plus jeunes de nos abonnés, Hélène.
Oui, pour ceux qui n'étaient pas nés. Alors, ça date de 1971. Alors, au départ, il s'agit d'un projet du ministre de la Défense de l'époque, Michel Debré, donc qui voulait agrandir le camp militaire du Larzac dans l'Aveyron. Et donc, tout de suite, il y a eu une mobilisation contre ce projet, et notamment 103 paysans qui refusent d'être expropriés. Donc, on est quelques années après 1968, dans les années 70, donc ça devient un petit peu un symbole. Et en 1973, il y a un énorme rassemblement de presque 100 000 personnes sur le plateau du Larzac. Alors finalement, le projet, il a été abandonné en 1980. Voilà comment un des agriculteurs racontait la lutte dans un reportage de France 3 en 2003.
Même des gens qui arrivaient avec des idées de violence, des gens d'extrême gauche, ont accepté que la lutte du Larzac reste une lutte non violente. Ça a été capital. Et ce qui a été peut-être le plus extraordinaire, c'est que dans des militants qui sont venus nous soutenir, et c'est des milliers, des dizaines et des centaines de milliers, eh bien ces gens-là ont accepté que dans les décisions qui étaient prises collectivement, c'est-à-dire les paysans et le mouvement de soutien au Larzac, eh bien la décision finale du choix des actions appartenait aux paysans du Larzac.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous dit ce paysan, ce militant, c'est que le choix de la non-violence dans la lutte du Larzac a été central. C'est ce qu'il nous dit. On n'a pas l'impression que ce thème de la non-violence ait été central dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes, même si toutes les allégations policières sur les explosifs, etc., relèvent du fantasme. Mais on n'a pas entendu, porter au premier rang ce thème de la non-violence. Est-ce que c'est une différence qui vous frappe aussi?
Moi, je répondrais d'une autre manière. Il ne faut d'abord pas inverser les choses. Ce qui se passe, c'est la violence d'État qui a commencé. C'est quand même hallucinant. On a évoqué tout à l'heure l'opération César de octobre-novembre 2012. C'était une invasion, une opération policière avec peut-être jusqu'à 2000 CRS et gendarmes qui était extrêmement violent. Et face à ça, il y a eu un mouvement, et pas seulement des occupants de la ZAD, qu'on appelle maintenant les zadistes, qui peut-être étaient à l'époque, je ne sais pas, 100 ou 200. Il y a eu des milliers de gens qui sont venus. Il y a eu des paysans qui sont venus avec leurs tracteurs. Il y a eu des gens qui sont venus de Nantes. Il y a eu des associations. Il y a eu des vieilles personnes, enfin des gens relativement âgés. Il y avait toutes sortes de gens. Et il y a eu, dans ces bagarres, des gens qui ont recouru à la violence défensive, d'autres qui se sont... moi, j'ai vu, par exemple, sur image, des gens qui se sont mis à poil, des jeunes gens qui se sont mis nus, totalement nus, face à des CRS ou gendarmes, je ne sais pas, et qui ensuite les ont aspergés de grenades lacrymogènes. Et la violence était du côté de la police, quelque part, c'est normal, mais de l'État. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Après, il y a eu un débat sur la violence, la non-violence. En réponse à cette violence de l'État, il y a un certain nombre de ceux qui s'étaient défendus efficacement avec les moyens de la violence parmi tous les autres moyens. Et rappelons quand même que ça a été un succès. C'est-à-dire cette résistance collective a été un succès. L'opération a été abandonnée au bout de 3 à 4 semaines, à peu près.
L'opération César, là.
L'opération César. Et il y a eu, début novembre, là, j'ai plus tout à fait la date en tête, peut-être vers le 8, mais peu importe, en novembre 2012, une manifestation dans le Bocage où il y a eu 40 000 personnes. Donc c'était une vraie résistance qui incarnait aussi un refus populaire de ce projet. Et donc c'est la violence d'État qui a quand même commencé. Après, il y a eu incontestablement un débat, et là je parle vraiment en journaliste, en observateur, un débat sur la violence et la non-violence, avec beaucoup de discussions, et notamment un moment qui a été décisif. Et aussi cette violence, le recours éventuel à la violence, s'inspire d'un certain nombre de théories, par exemple le comité invisible, ou ce qui est porté d'une certaine manière par les gens qui participent au cortège de tête, comme on disait au moment des manifestations contre la loi travail l'année dernière, et qui disent, c'est une option politique, il faut recourir par rapport à la violence de l'État, du capitalisme, à la violence. Un certain nombre de gens le pensent.
Alors, c'est des débats politiques. Quand vous dites qu'il y a eu un débat, est-ce que ce débat a été tranché ou pas ?
Il n'a pas. Écoute, d'abord, c'est ce qui rend passionnant non seulement la ZAD, mais tout ce mouvement d'occupation, de résistance, c'est qu'il y a énormément de discussions, d'élaboration collective.
Il va pas y avoir. De répondre non à ma question. Non, il n'a pas été tranché.
Il n'a pas été tranché, au sens que je dirais qu'il y a une majorité qui dit qu'il faut agir par la non-violence, et il y a peut-être un certain nombre de gens qui disent que la violence est légitime. Mais en revanche,
à la différence du Larzac, où effectivement cet agriculteur nous dit, bah, finalement, voilà, quand il y avait débat, c'est nous, oui. les vrais paysans du Larzac qui.
Mais une différence avec le Larzac, c'est que tu avais 103 paysans. Enfin, vous, il y avait 103 paysans. C'est-à-dire que la présence d'agriculteurs, au départ, était quand même beaucoup plus importante. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui sont venus et qui sont venus renforcer ce moment. Bon, Larzac, je connais de loin, j'étais à peine né, enfin, si un peu, mais je. Et là, la situation de la ZAD en 2012, il y avait beaucoup moins d'agriculteurs, parce qu'il y a eu tellement ce rouleau compresseur de l'État, des expulsions, etc., qui s'était déjà produit, ou des expropriations, qu'il restait très peu d'agriculteurs. Et vers 2009-2010, au moment où le mouvement de résistance, qui durait déjà depuis plus de 10 ans, commençait à s'affaiblir, il y a eu des gens qui sont venus de l'extérieur, des jeunes, et qui sont venus à l'appel ou à l'invitation d'un certain nombre d'habitants, et qui ont dit on va s'installer ici, et cette résistance, il faut la faire rebondir en vivant ici, en étant sur place. Et donc, tu as eu un autre jeu de population, si je peux parler comme ça, d'occupants, mais les agriculteurs étaient beaucoup moins nombreux sur la zone.
– Alors, on va revenir ensuite sur toute cette stratégie d'habiter sur place, d'y développer des activités, qui est l'autre aspect, évidemment, sans doute le plus intéressant, d'ailleurs, du combat qui vient d'être mené. Juste pour terminer sur le Larzac, je voudrais sur ces questions, je voudrais qu'on revoie un extrait de la télévision de l'époque. Donc à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, enfin peut-être déjà deux, mais elles étaient toutes regroupées au sein de l'ORTF, monopole public. Un des tout premiers reportages de l'ORTF sur la lutte des paysans du Larzac. Et on va voir que le thème de la violence alléguée, prêtée aux paysans est aussi très présent.
Le camp militaire du Larzac, c'est pour l'instant une zone de 3000 hectares qui s'étend à l'est de la route nationale 9 Montpellier-Millau sur le domaine du village de la Cavalerie dans l'Aveyron. Le projet d'extension porte sur 14 000 hectares au nord, à l'est et au sud du camp actuel. Partisans et opposants de l'extension s'affrontent, parfois avec violence. Insultes, intimidations, menaces de mort même provoquent la terreur et font taire les tenants de l'agrandissement du camp. Le ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Michel Debré, fait le point sur ce problème et sur les passions qu'il soulève.
Derrière toutes les critiques que vous avez entendues ou que vous entendrez encore, se cache en réalité, une fois de plus, comme à bien d'autres occasions, cette thèse démenti par les faits, démenti par la raison, comme quoi les Français pourraient être libres, la France pourrait être un pays gardien de la liberté de ses citoyens sans avoir de défense nationale. Je n'insiste pas. Alors, il y a d'autres passions, qui sont des passions plus justifiées, la passion du terroir, la passion d'une certaine économie. Alors, sur ce point, je crois que les passions ont été excessives. Et cette extension du camp du Larzac, qui sera une extension modérée, non seulement sera très utile à la défense nationale, mais apportera à la région du Larzac et à la région de Millau un apport économique positif.
Voilà, donc le parallèle et différence avec le discours médiatique d'aujourd'hui, à chacun d'en tirer ses conclusions. Alors, l'autre aspect de la lutte, du combat qui a été mené, aspect également répercuté par les médias dominants, d'ailleurs parfois dans les mêmes reportages que ceux qui composaient le montage qu'on a vu au début de l'émission, c'est l'activité économique.
Oui, voilà, c'est toujours la même chose, les méchants zadistes et les gentils zadistes. Donc il y a quand même eu des sujets qui étaient un peu plus bienveillants. Et donc on a pu constater que la ZAD, c'était aussi des gens qui vivaient là, qui habitaient le lieu et qui avaient des activités agricoles ou artisanales.
Construction de cabanes, élevage de moutons, une vie quotidienne s'est organisée au milieu des bocages nantais. Sur cet élevage, ils sont trois amis à avoir quitté leur région d'origine pour s'installer à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont appris le métier d'agriculteur, ici sur ces terres où peut-être un jour décolleront des avions de ligne. Et aujourd'hui, ils n'envisagent pas de vivre ailleurs.
Pour l'instant, c'est une toute petite exploitation, 11 vaches et une production de lait bio. Willem, paysan militant, s'est installé sur la ZAD en avril 2014, après son master en histoire et une formation agricole. Il a retapé cette ferme qui ne lui appartient pas. Elle a été expropriée en vue de la construction de l'aéroport.
Je suis exploitant agricole, je cotise à MSA. Voilà, je paye des impôts sur la ferme.
Alors que vous êtes sans droit ni titre.
Alors que je suis sans droit ni titre, oui.
Camille s'est installée en 2012 avec 6 autres personnes. Ils vivent dans cette maison qu'ils ont construite avec des matériaux de récupération.
Ici, il y a la cuisine, là, il y a le salon, là, il y a le coin repas.
Il y a 5 ans, il démissionne de son poste d'enseignant pour venir résister contre la construction de l'aéroport. Aujourd'hui, son engagement initial est devenu un mode de vie alternatif.
Nous, on se considère légitime d'occuper ces terres et de lutter contre cet aéroport et de promouvoir un mode de vie qui est plus partageur, plus solidaire. Comme on met nos productions en commun, eh bien, toutes ces productions-là, on n'a plus besoin de les acheter au supermarché.
Ils cultivent la terre, élèvent des vaches, des moutons pour nourrir la communauté. L'excédent, quand il y en a, est revendu sur les marchés.
Alors, je dois avouer que moi, toutes ces images-là, je ne les avais pas vues jusqu'à ces toutes dernières semaines dans les journaux télévisés. Ce degré de professionnalisation d'un certain nombre d'habitants de la ZAD, je ne l'avais pas vu. Alors c'est que les médias ne le montraient pas ou c'est que progressivement, au fil des ans, quand même, on va dire l'occupation s'est professionnalisée.
Bah, je ne sais pas ce que veut dire professionnaliser, mais
C'est très simple. L'agriculteur qui paye la MSA, je ne savais pas qu'il y avait sur le terrain des agriculteurs qui payaient la MSA.
En tout cas, les gens s'installent, vivent, développent énormément d'activités, surtout agricoles, mais éventuellement autres. Pas professionnaliser ou vivre, c'est vivre avec une activité qui est une activité productive, mais comme en même temps il y a...
– Mais ça évolue au fil des années ou pas ? Dans les 10 dernières années, ou disons depuis le 2012, vous avez vu ça changer ou pas ? Ou c'était comme ça dès le début ?
– À ma connaissance, ça a beaucoup évolué depuis 2012, c'est-à-dire 2012 a été un tournant. Parce qu'avant, entre 2009, je crois qu'il y a eu un camp Action Climat en 2009, où, à partir duquel un certain nombre de personnes venues de l'extérieur se sont installées, les zadistes. Et puis 2012 a provoqué à la fois un tel choc, un tel élan de solidarité, qu'il y a un certain nombre de gens nouveaux qui sont arrivés. Et puis peu à peu, comme il y a toujours une lutte, il y a eu une présence policière et de gendarmes sur les routes pendant 6 mois, il y a eu des menaces d'expulsion, etc. Mais en même temps, la vie continuait, les gens vivaient et peu à peu s'installaient, aménageaient des maisons de mieux en mieux construites, commençaient à développer des activités agricoles.
Vous restez toujours avec l'image de la cabane dans les bois, quand même. Enfin, je veux dire, l'image dominante, c'était l'image de la cabane dans les bois. Je veux dire, alors qu'on voit bien qu'on en est très loin, là.
Ils ont aussi repris des maisons qui existaient, qui avaient été abandonnées. Il y a eu une dizaine de fermes, peut-être, qui sont en pierre, qui ont été reprises, réoccupées. Il y a des boulangeries, il y a une scierie, il y a... je ne sais pas, professionnalisés, je ne pense pas qu'ils sont... Enfin, tu vois, il ne faut pas dire tu, il faut dire vous.
Non, mais ici, c'est comme dans la ZAD, on fait tout comme on veut.
Ah bon, alors, donc... parce que Daniel, on se connaît quand même.
Oh là, depuis longtemps.
Mais tu vois, genre, le terme professionnalisé, je ne sais pas si eux, les habitants de la ZAD, le prendraient à leur compte. Donc moi, je ne peux pas qualifier quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'ils le vivent de cette manière.
Alors, on va demander à Camille. Camille, le terme de professionnalisation, vous le reprendriez à votre compte ?
Je ne sais pas si... Je pense qu'il y a certaines personnes, oui, qui se considèrent professionnelles, si dans professionnel, il y a l'idée de bien connaître son activité et la faire du mieux possible. Si c'est professionnel dans le sens de vouloir absolument en faire quelque chose de lucratif qui rentre sur un marché compétitif, ça non, je pense que justement l'idée ici, c'est d'essayer de se départir de ce modèle-là.
Non, mais par exemple, encore, je reprends encore l'exemple de la MSA, par exemple, payer ses cotisations MSA, ça veut dire s'inscrire dans le système de solidarité nationale des agriculteurs, comme tous les agriculteurs de France. C'est, à mon avis, voilà, c'est un des critères de ce que j'appelle la professionnalisation.
Oui, mais du coup, c'est pour ça, c'est ce que je vous répondais. Je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça voilà. Enfin, Willem l'explique, c'est un choix qu'il a fait. Et d'ailleurs, dans les 6 points pour l'avenir de la ZAD, qui est un peu le texte fondateur, qui est issu du mouvement dans son ensemble pour poser les bases de ce que nous projetons pour l'avenir de la ZAD, il est bien expliqué que la diversité des activités, nous, on a envie de la préserver, on tient à la préserver. Et donc, il y a effectivement les fermiers et les paysans historiques qui sont là depuis, dans certains cas, 5 ou 6 générations et qui, eux également, à un moment donné, se sont retrouvés squatteurs sur leur propre terre à continuer à payer des cotisations alors qu'ils étaient sans droit ni titre. C'est quand même important de le garder à l'esprit.
Exactement comme Willem, d'ailleurs, voilà. Dans la même situation.
Tout à fait. Et d'autres gens qui développent des activités en essayant d'explorer d'autres modèles plus collectifs, en essayant de développer une certaine idée du commun, et que ça, on tient beaucoup à continuer à préserver cette approche-là, parce qu'on voit bien, en fait, que le soutien qui a été donné au mouvement et l'intérêt médiatique, puisque c'est de ça dont on parle, l'intérêt médiatique en ce moment, il s'est élargi d'une manière considérable. On a des magazines catholiques, on a des magazines techniques qui viennent nous voir. Il y a un intérêt de la presse internationale qui s'est beaucoup développé.
Des magazines techniques ? Quel genre de magazines techniques ?
Des magazines de design, des magazines d'architecture, il y a des urbanistes, enfin voilà, c'est de tout le monde s'intéresse à ce qui se passe ici, et je pense que c'est parce que ça cristallise aussi une soif de d'autres horizons et qu'il y a vraiment un espoir de pouvoir développer des modes de vie qui soient basés sur les communs, la solidarité, le partage, la protection du vivant et non sa marchandisation, qui est en cours ici et qui effectivement s'est développé. Bien entendu, ça s'est développé sur les 10 dernières années. On peut pas imaginer un territoire qui serait le même à un point M et qui serait exactement le même 10 ans plus tard. Non, ça s'est développé, structuré, enfin voilà, on travaille tous ensemble pour que ce soit de plus en plus juste et solidaire et pérenne.
Stéphane Gerco.
Celui qui a abandonné le camp militaire du Larzac en 1981 avait une formule, c'était l'imagination au pouvoir. Et je pense que dans cette ZAD...
d'un homme politique français nommé François Mitterrand.
C'est ça, voilà. Exactement. Et en l'espèce, je pense que la ZAD, a priori, cet acronyme, ça veut dire zone à défendre. Sauf qu'il y a une expérimentation qui est extrêmement riche, extrêmement divers. Alors, vu de l'extérieur, c'est un bloc homogène. Voilà, ils ont passé 10 ans à construire des grenades et à ériger des miradors
et des cabanes
pour attendre les CRS. À l'évidence, pendant 10 ans, il s'est créé une contre-société avec des gens qui ont réfléchi, qui ont créé, qui ont animé un territoire et qui vivent au quotidien. et on ne peut pas imaginer qu'il ne faisait rien. Voilà. Donc, c'est une pluralité d'expériences avec des gens qui, à un moment, ont décidé d'accueillir des journalistes, de ne pas en accueillir, de développer une activité professionnelle, de ne pas développer telle activité avec des boulangers, avec des paysans, etc., etc. Voilà. Donc, il faut faire l'effort faire un décrochage local. Et c'est assez intéressant, tous ces élus locaux qui sont montés au créneau après la décision d'abandon, venir nous dire qu'on ne connaissait pas le territoire, alors que je pense qu'ils n'ont jamais mis les pieds sur la ZAD et qu'ils restent prisonniers d'une vision idéologique de la ZAD avec des présupposés qu'ils réinjectent systématiquement dans le débat au lieu, à un moment, d'amorcer une dépression et de dire « on va aller voir ce qui se passe et peut-être que c'est intéressant ce qui se passe ». Tout simplement.
Alors, ça fait plusieurs fois sur ce plateau qu'on entend parler de boulangers. En même temps, l'heure du déjeuner approche. Vérification par l'image, il y a bien des boulangers?
Oui, exactement. Et c'est une figure qui est très mobilisée dans les sujets sur la ZAD. Et on le voyait notamment dans un documentaire qui est sorti en 2015 et qui s'appelle « Le dernier continent ».
Où on est le premier lieu à en fait pas du tout sortir du milieu squat. On était quatre personnes, moi j'étais boulanger, il y avait quelqu'un qui était botaniste, il y avait quelqu'un d'autre qui était instite, et il y avait quelqu'un d'autre qui bossait dans un musée. Le fait que nous on arrive en fait à un moment, ça a vraiment fait un lien entre les habitants du coin et le milieu squat. Et la boulangerie là-dedans aussi ça a joué parce que c'était un prétexte pour que les gens se croisent en fait. Ça a vraiment créé un lien là, qui a permis aux gens de se rencontrer, de se connaître.
Voilà, alors la boulangerie était un prétexte, en fait. Dit-il, c'est un prétexte pour que les gens puissent... Dans une file d'attente de boulangerie, on se croise, on se parle, tout le monde mange du pain, les anciens, les nouveaux, voilà.
Peut-être, mais là, tu vois, c'est en 2015, et comme disait Stéphane, ça a évolué, parce que maintenant, il y a trois boulangers.
Il y a trois boulangers.
Il y a un boulanger, si je ne fais pas d'erreur, là-bas, il y a deux fours aux Fosses Noires, avec deux boulangers, donc il y en a trois maintenant, qui font de l'excellent pain. Et...
Avec des spécialisations, non? Pain bio?
Ça, je ne sais pas. Non,
comment ça, vous ne savez pas?
Par exemple, il y en a qui vendent au non-marché. C'est-à-dire pour les gens. Il y en a d'autres qui sont en relation avec la société extérieure, donc qui vont avec des AMAP, qui vont fournir du pain avec des AMAP. Il y a aussi une démarche de fournir des légumes, éventuellement du pain, à des groupes en lutte. Par exemple, il y a eu une grève des postiers, je crois, à Nantes, pendant il y a quelques mois, et les boulangers et les maraîchers de la ZAD apportaient des légumes et du pain. Donc voilà.
Pour ça, c'est... Véronique Castellano, alors, reporter de terrain, vous confirmez? Trois boulangeries?
Oui, et c'est surtout, alors, non, parce que je reviens, on voit beaucoup la boulangerie en ce moment. Alors, effectivement, le pain, c'est beau, c'est symbolique. Donc, effectivement, dans cette micro-commune, c'est quelque chose d'aussi rassurant. Je pense qu'on nous invite. Alors, je reviens, parce que je suis un peu embêtée tout à l'heure. On peut aller où on veut, d'accord? On se promène où on veut. On peut nous inviter. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a quand même aussi un service comme tout à l'heure. Hein. On le sait, on voit Camille à nous dédouaner. Et effectivement, on nous oriente facilement. Les portes de la boulangerie sont ouvertes. Ah. Après, les portes de la boulangerie sont ouvertes. On ne voit pas forcément les visages, ça dépend des gens, etc. Mais voilà, c'est aussi symbolique de cette vie qui s'organise.
Enfin, en même temps, c'est pas que de la com. Les trois boulangeries existent bien, produisent du pain.
Sur la ZAD, on sait aussi que il est temps aussi de montrer ce qui se fait justement pour casser un peu
l'image des explosifs.
Parce que c'est tout ça, effectivement, c'est ça. Ce sont des gens qui travaillent, qui cultivent, qui ont aussi un rythme, etc. Alors la difficulté, on a un peu évoqué, c'est une multitude de familles. Donc il y a la famille boulangerie, la famille éleveur, il y a la famille... Enfin, il y a des façons de penser, ce sont des lieux il y a des lieux de vie, on considère qu'il y en a 17, hein. Mais il y a 80, enfin il y a plus 90 lieux d'habitation. Donc là où les gens se retrouvent un petit peu par façon de penser, de vivre, et puis ensuite, enfin par affinité, hein, tout bêtement, hein, comme on vit dans d'autres endroits, et puis ces lieux d'activité qui sont en grande activité.
Alors une autre chose, Camille, qu'on voit aussi dans l'extrait qu'on vient de voir, là, c'est qu'ils sont arrivés sur la ZAD des gens qui avaient... une vraie qualification professionnelle, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire le contraire des punks à chiens d'Éric Brunet. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que statistiquement, c'est important?
Mais en fait, il y a vraiment, quand on dit qu'ici, il y a une grande diversité, et bien voilà, il y a une grande diversité de gens, certaines qui sont très qualifiés et qui se sont mis à faire quelque chose de complètement différent que ce que leur qualification permettait de faire, des gens qui sont venus avec un savoir-faire et qui ont envie de le faire perdurer sur la ZAD et de le partager, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que les compétences se partagent énormément et que donc il y a effectivement comme le cas du boulanger que vous avez montré, qui était effectivement quelqu'un qui avait une formation de boulanger et qui a formé beaucoup d'autres personnes qui maintenant font de la boulangerie. Je pense que dans les équipes de boulangerie, il y a probablement 20 à 25 personnes maintenant, dont des personnes qui n'étaient pas boulangères à l'origine et qui le sont devenues et qui font aussi, qui travaillent également le bois et qui font aussi de la mécanique parce qu'il y a des gens qui ont partagé leurs compétences. Je trouve que, en tout cas, ce que j'ai vraiment envie de... Alors, il y a des gens avec des qualifications, il y a des gens qui n'ont pas de qualification officielle et qui ont un éventail de compétences complètement fou. En fait, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, le tissu social qu'il y a ici. On a tendance à vouloir absolument l'homogénéiser, alors qu'en fait, il n'est pas homogène. C'est pas du tout un espace où tous les gens se ressemblent, viennent du même milieu, et que ça a quelque chose de magnifique pour toutes les fois où ça rend les choses difficiles. Après, j'avais quand même envie de rebondir sur quelque chose qui a été suggéré plusieurs fois, de dire « Ah ben en fait, la boulangerie, c'est un prétexte, il y a des gens qui se mettent à faire des activités pour la communication. »
Suggéré par les boulangers eux-mêmes, hein,
dans les Oui, je sais bien, mais en fait, on voit bien ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'artisans qui sont passionnés par leur activité et qui trouvent qu'en plus, ça permet de parler avec les gens. Enfin, moi, je connais beaucoup de gens qui vendent leurs produits sur les marchés, alors qu'ils sont soit maraîchers, soit boulangers, soit même vendeurs de vêtements, et qui adorent le marché parce que ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas ailleurs.
Je pense que tout le monde avait compris ce qu'il voulait dire, hein, le boulanger.
Mais que du coup, il n'y a pas non plus des gens qui essayent de développer des activités ici dans une logique de communication. Ici, on essaye vraiment de développer d'autres mondes,
personne
et de pouvoir
ça,
en parler.
Personne n'a dit ça. Juste, pardon par avance de personnaliser un peu, mais puisqu'on parle des profils des gens qui viennent, qu'est-ce qu'il en est de vous-même, par exemple? D'abord, vous habitez la ZAD depuis combien de temps?
Moi, personnellement, je suis sur la ZAD depuis 2 ans.
2 ans. Et quand vous êtes arrivée, vous aviez un métier avant? Vous aviez une qualification, hein?
Oui, mais alors du coup, moi, je n'ai pas très envie de parler de moi. Je ne trouve pas que ce soit très intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir... Moi, je veux bien discuter de justement ce que je connais, qui est les relations,
que
les relations avec la
presse. Ce que vous connaissez le mieux, c'est vous-même quand même, non?
Oui, mais bon, voilà. Je pense pas que ce soit le plus passionnant. Oui, évidemment, j'avais un métier avant que je continue à exercer de manière indépendante et régulière.
Et c'est intrusif de vous demander quel était ce métier?
J'étais formatrice, voilà. J'étais.
D'accord. Et c'est une activité que vous continuez d'exercer dans la ZAD ou alors vous êtes diversifié?
Diversifié. Oui, je continue à faire ça sur la ZAD et à l'extérieur de la ZAD.
Alors, on parlait de la MSA tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Que vont devenir les terres? Pour parler des agriculteurs, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Qui va rester? Qui va partir? Est-ce que tout ça va se passer d'une façon totalement harmonieuse? Est-ce qu'on peut redouter, au contraire, des bagarres pour avoir les meilleures terres? Qu'est-ce qui va se passer?
Écoute, non, enfin, on est journaliste, donc moi, je ne fais pas de prévision. Le boulot qu'on va essayer de faire un reporter, c'est déjà de bien comprendre
comment se posent les termes.
Mais si tu me permets de répondre d'une autre manière...
Je pose la question parce qu'on a vu une dépêche AFP, je crois, dans laquelle la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique commence déjà à dire, bon, alors attention, je traduis ce que pense la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, mais commence déjà à dire, bon, attention les amateurs et les rigolos, maintenant, il va falloir faire venir sur la zone des paysans sérieux et professionnels. Vous l'avez lu comme moi, cette déclaration.
Oui, bien sûr. Il va y avoir débat là-dessus. Là. Pour la Chambre d'agriculture, c'est clair que ces terres ne doivent pas être... Cette société de gestion des terres ne doit pas exister.
Ce que souhaitent les habitants de la ZAD, c'est ça, c'est une société de gestion des terres. C'est que ce soit une société de gestion des terres qui récupère tout le foncier et qui ensuite le répartisse, c'est bien ça.
Qui soit issu du mouvement lui-même.
C'est ce qui a été proposé par José Bové, par Mathieu Orphelin, qui est d'une certaine manière suggéré dans le rapport de médiation. Et si on lit bien la déclaration d'Édouard Philippe le 17 janvier, donc le Premier ministre, quand il dit « les habitants illégaux », seront évacués, c'est quelque part aussi une porte ouverte à cette négociation. Pourquoi ? Parce que si ce schéma de négociation arrivait à ce qu'il y ait une société foncière, par exemple, collective, qui prenne en charge les terres et qui passerait une sorte d'accord avec l'État, il y aurait une concession de l'État à qui ces terres appartiennent pour l'instant, ceux qui adhéreraient à cette société d'une manière ou d'une autre au sein du mouvement deviendraient légales, puisqu'il y aurait un schéma légal. Donc c'est là qu'il y a vraiment une porte ouverte à la discussion et l'ensemble du mouvement est tout à fait dans cette logique, me semble-t-il. Mais effectivement, comme vient de le dire Véronique, la Chambre d'agriculture qui va revenir, il va y avoir la FNSEA, et ben on rentre dans des discussions qui ne vont peut-être pas être toujours simples, mais voilà un peu l'état des lieux,
et
me semble-t-il. –
Quel est l'intérêt de la Chambre d'agriculture et de la FNSEA, c'est-à-dire des agriculteurs traditionnels, de se mêler de cette affaire ? Pourquoi ils s'en mêlent ? Si je peux.
Parce qu'il y a aussi deux visions d'agriculture qui sont. C'est aussi ça derrière ce aujourd'hui. Il y a ça. C'est aussi deux visions de l'agriculture qui sont
bien
différentes.
Sûr. Quelque chose. Mais voilà, bien sûr. Conservateur. C'est combien d'hectares la ZAD ?
1650, sauf.
Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire, la Chambre d'agriculture et la FNSEA, de ces 1600 hectares ? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de voir se développer un modèle différent sur 1600 hectares ?
Qui comporte déjà des agriculteurs installés.
Il y a cinq exploitations. Non, mais expliquez-moi, je ne comprends pas. Je veux dire, mais...
Je peux pas leur parler. Nous, on va les interroger aussi. Pourquoi est-ce que vous avez accepté, vous ne vous êtes pas battu contre cette nouvelle artificialisation des terres ? Pourquoi vous acceptez cet étalement urbain permanent et que là, soudainement, vous voudriez reprendre des terres alors qu'il y a plein de jeunes, des néo-paysans qui arrivent en accord avec les paysans locaux et...
Ça crée un précédent, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, on va devoir faire preuve d'intelligence collective et de créativité institutionnelle. L'État est propriétaire de ces 1650 hectares. Il y a des gens qui sont dessus. Et la pratique, l'usage et la loi, c'est des terres, quand vous voulez la céder, c'est la SAFER, c'est une société d'aménagement, pour l'essentiel composée d'élus locaux et surtout de la FNSEA, de représentants du syndicat majoritaire. Et généralement, c'est comme ça qu'ils gèrent le foncier agricole. À partir du moment où vous êtes en train de dire sur ces 1650 hectares, on va essayer de faire autrement, en essayant de prendre en compte l'accueil des nouveaux paysans. Vous êtes en train de contourner. Et il y a effectivement deux modèles agricoles qui sont en train de se dessiner. Soit quelque chose qui est verrouillé par le syndicat majoritaire, soit un aménagement institutionnel qui va permettre justement d'accueillir plus facilement des néo-ruraux, des nouveaux agriculteurs qui s'installeraient.
Ouais. Non, c'est très clair. Donc il y a une véritable crainte du précédent, quoi. Surtout ne pas créer un précédent. Vous le ressentez ? Je ne sais pas si vous les...
Il y a une info qu'on n'a pas dit. La préfecture de Loire-Atlantique a dit que les... Bien sûr, on peut, et ça a été aujourd'hui, quelqu'un qui est sur la ZAD pourra racheter un terrain s'il le souhaite. Après, c'est la question qui va se poser. Voilà. Pour l'instant, on en est là-dessus. On en est là. Les terres vont revenir à l'État, vont être...
Mais comme le disait Hervé Kempf, avec une marge de négociation qui est que l'État va pouvoir discuter avec cette future société que vont constituer ensemble les agriculteurs qui sont déjà sur le terrain. Voilà. Non, mais je veux dire, on voit bien que quelque chose s'ouvre là. On voit bien que quelque chose s'ouvre, qui n'est pas écrit, qui est inédit.
Et qui est, je rebondis sur ce que vient de dire Stéphane tout à fait, ce qu'il y a de fou dans ces chambres d'agriculture et cette FNSEA, c'est qu'ils n'encouragent pas pas seulement en Atlantique, en Loire-Atlantique, mais partout, ils n'encouragent pas franchement les néo-paysans et les petites installations, et ils soutiennent essentiellement l'agrandissement d'exploitations existantes. Donc ça serait absurde que la partie des terres de la ZAD qui serait ouverte soit récupérée par des agriculteurs voisins qui passeraient de 150 à 200 hectares et qui auraient des exploitations. C'est exactement ce qui est en train de tuer l'agriculture en ce moment. Donc la logique, c'est effectivement ces deux logiques.
Voilà, et on voit bien comment effectivement l'observation de ce qui va se passer va être tout à fait passionnante dans les prochains mois et dans les prochaines années, beaucoup plus intéressante que de se demander s'il y a des grenades ou s'il y a des pieux. Voilà. Alors cette crainte du précédent nous amène au dernier aspect de l'émission, qui est de nous demander si ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes est transposable à d'autres endroits en France. Comment? Pourquoi? Alors d'abord, un petit échantillon des endroits où ça pourrait être éventuellement transposé.
Alors oui, il y a des dizaines de lieux en fait en France où des projets d'aménagement sont contestés, mais il y en a surtout deux dont on parle beaucoup. Alors il y a Bure dans la Meuse, donc il y a des personnes qui sont mobilisées contre un projet d'enfouissement des déchets nucléaires, d'enfouissement profond des déchets nucléaires. Donc c'est des personnes qui sont venues habiter sur place. Il y a une maison qui a été achetée qui s'appelle la maison de résistance, donc dans le village et dans d'autres endroits aussi dans la Meuse. Donc je les ai appelés hier, ils m'ont dit qu'ils ont reçu beaucoup de coups de fil de journalistes à partir d'hier qui leur demandent s'ils vont être la prochaine ZAD. Alors eux, ils refusent ce terme de ZAD, notamment parce que c'est pas comme à Notre-Dame-des-Landes où il y a une zone délimitée à défendre, mais c'est dispersé sur plusieurs endroits. Et un autre lieu de mobilisation important, c'est à Roibon, dans l'Isère, où là, il y a, alors là, à ma connaissance, ils ne refusent pas le terme de ZAD, il y a une forêt qui est occupée, et donc là, c'est contre un projet de Center Parks, donc c'est un grand parc de séjour et de loisirs, donc qui devrait être construit par Pierre et Vacances, et complément d'enquête, il consacrait un numéro hors série en juillet 2017.
Avec ses parcs estampillés écolo, Gérard Bremond est en passe de conquérir la France. Toute la France? Non. Dans l'Isère, un village d'irréductibles résiste à celui qu'il qualifie d'envahisseur. En 2014, le projet de Center Parks dans la forêt de Roibon s'est arrêté net pour devenir une ZAD ou zone à défendre. Depuis, ils sont une poignée à occuper le terrain, comme Colin, Mathieu et Raphaël, ici depuis 3 ans. Ces altermondialistes ont tout construit de leurs mains et reçoivent parfois quelques soutiens de l'extérieur.
On a beaucoup de producteurs du coin qui nous aident, on leur donne des coups de main. Et après, ils nous donnent à manger des légumes, tout ça, des poireaux, des oignons, des patates, beaucoup de légumes, quoi.
Nature contre béton, les zadistes font reculer Gérard Bremond. Le parrain du tourisme a beau s'afficher écolo, ces militants ne comptent pas baisser pavillon.
C'est un bétonneur pour moi, ouais. Ces raisons écolo, c'est que de la surface. C'est une question de business, c'est un argument marketing. Là, Bremond, il met 3 rondins de bois sur un préfabriqué, il dit c'est écolo. Il met 3 animaux sauvages dans une cage, et il dit c'est écolo. Ben non, non, non. Les animaux sauvages, si on veut les voir, on se lève à 5h du matin avec ses jumelles, et là, on va les voir, les animaux sauvages. C'est pas avec un seau de grain dans un center park qu'on va rencontrer des animaux sauvages. Et c'est ce qu'essaie de vendre Bremond à notre société.
Alors, Camille, je posais la question de savoir si le combat de Notre-Dame-des-Landes est transposable. Alors, vous nous avez avoué sous la torture que vous étiez formatrice avant de venir, avant de venir à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous pourriez aller à Bure, à Roibon pour former les opposants locaux aux méthodes qui ont fait le succès de Notre-Dame-des-Landes?
Moi, je crois que le terme de transposabilité me gêne parce que je pense que ce qui fait la force d'une lutte comme celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est d'avoir su s'ancrer dans son territoire avec les gens d'ici et d'avoir travaillé sur 5 décennies quand même, c'est important de le rappeler, d'avoir su travailler ensemble sur le territoire ici.
Mais il n'y a pas des recettes quand même, il n'y a pas des recettes comme celle-là par exemple, comme celle que vous décrivez, c'est-à-dire l'importance de l'alliance avec les gens qui vivent là, avec les occupants du territoire.
Je pense que la force de ce mouvement, ça a été d'être très fort dans sa composition, d'être capable d'avoir des composantes très différentes qui n'essayent pas de faire devenir les autres composantes comme elles, mais bien de travailler ensemble.
On est bien d'accord, mais c'est peut-être justement ça qui est transposable, j'insiste.
Eh bien, alors peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il peut y avoir des leçons à tirer, des inspirations à prendre, et c'est pour ça qu'on reste, on est très connectés. La lutte de Notre-Dame-des-Landes n'est pas une lutte qui est nombriliste. On a toujours été très connectés, on connaît bien les gens de Bure, on connaît bien les gens de Roibon, et donc on échange beaucoup, mais il n'est pas question d'essayer d'imaginer la ZAD comme une espèce de modèle à aller répliquer ailleurs. Je pense que ça, c'est un mode de pensée dangereux. Il me semble que justement, ce qui est intéressant, c'est de trouver la nature de son territoire, et que je comprends très bien pourquoi à Bure, les gens disent en fait, la situation est différente, et donc nous, on va développer la lutte par rapport aux enjeux du territoire et des spécificités d'ici. Et donc, échanger, bien entendu, tirer le leçon, bien entendu, mais pas devenir un modèle, non.
Alors, transposer, pas transposer, échanger, tirer des leçons
D'abord, disons qu'échanger, nous, par exemple, à Reporter, on suit très attentivement toutes ces luttes, et donc l'échange se fait par des médias d'information, et puis voilà, c'est aussi à ça que les médias servent, et c'est à ça que Reporter sert.
Alors, sur après, le fond, est-ce qu'il y a des leçons à tirer enfin, je veux dire, c'est... Non, mais attendez, c'est quand même la première fois depuis je ne sais
la leçon, elle est ça. C'est, enfin, moi, c'est celle que je propose, et que j'imagine beaucoup de gens sont d'accord. Ce qui a fait la force de la lutte pour Notre-Dame-des-Landes, c'est l'alliance de diverses composantes, voilà, on l'a évoqué, à Roibon. C'est pas seulement les personnages sympathiques qu'on a vus qui mènent la bagarre. Eux, ils occupent un terrain, mais il y a aussi des associations locales. Il y a des gens à Grenoble qui se bagarrent. Et ce qu'oublie de dire, mais peut-être qu'ils ne le savaient pas à ce moment, c'est qu'il y a eu des jugements de la tribunal, cour d'appel de tribunal administratif de Lyon qui ont condamné, mis un frein d'arrêt à Center Park parce qu'ils ne respectaient pas la loi sur l'eau et sur l'assainissement. Donc, Bure, c'est aussi un cas différent où il n'y a pas d'occupation du territoire de la même manière parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a des maisons et les jeunes gens, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui arrivent, s'implantent et vivent en louant ou en achetant des maisons aux alentours. Donc on n'est pas dans la même logique d'occupation du territoire. Et il y a des liens qui se font avec les paysans, avec les gens aux alentours, avec le mouvement historique de résistance. Donc l'idée fondamentale, c'est que ce n'est pas une transposition, c'est qu'il y aura des enseignements utiles à tirer de cette lutte, comme il y avait des enseignements utiles à tirer du Larzac, comme il y a plein d'enseignements à tirer des succès. Et un de ces enseignements, me semble-t-il, mais ça c'est sujet à débat et à réflexion, c'est l'alliance de ces différentes composantes, de ces différentes formes de lutte, et que les gens arrivent à surmonter leurs différences de culture, leurs conflits parfois, leurs oppositions, pour être en alliance sur l'objectif commun.
Stéphane Kerkhove.
Je souscris complètement à ce que dit Hervé. C'est la diversité qui a fait la richesse de cette lutte, comme sur le Larzac, où on avait des évêques, des anarchistes, des paysans. On avait la FNSEA qui soutenait, enfin, avec la lutte, et qui, in fine, a créé cette émulsion. On a retrouvé ça à Notre-Dame-des-Landes, avec des nouveaux venus, des gens ancrés, des gens qui soutenaient par pétition, des gens qui, etc., etc. Et cette aptitude, et ça je pense que c'est un des éléments importants, c'est quand vous rassemblez 40 000 personnes sur un site, il est plus difficile d'imposer un choix contesté. Voilà. Bon, ça c'est une des leçons. Après, je pense qu'il n'y a pas de modèle unique et il faut se méfier des modèles uniques parce qu'on a tôt fait d'imposer, vu de l'extérieur, un modèle qui s'imposerait aux militants qui sont là pour créer et animer cette lutte. Et c'est au travers de cette animation que les gens s'ancrent et vont réussir à acquérir une légitimité. Sur Notre-Dame-des-Landes, vous avez eu des associations locales qui connaissaient sur le bout des ongles le dossier, et ce n'est pas en appliquant une méthode, c'est parce qu'ils ont bossé leur dossier, qu'ils ont vécu sur les lieux, qu'à un moment, on a créé justement on a obtenu cette victoire.
Très bien, merci à tous les quatre. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, il y a un truc super important qu'on aurait oublié. Non,
oui.
Bon.
Oui.
Oui. Ah, Camille, oui.
Moi, j'aimerais donner rendez-vous à tout le monde le 10 février pour continuer à enraciner l'avenir de la ZAD.
Très bien, l'information est passée. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine.
Merci.